Le 13h, Marie-Françoise et Wolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Pêche illicite et non déclarée, le phénomène prend de l'ampleur. Les écosystèmes marins sont menacés. En cette journée internationale de la lutte contre cette forme de pêche, le 13h fait une incursion dans ce secteur et fait l'état des lieux dans les régions du littoral, de l'extrême nord et du sud. Pourquoi certains pêcheurs optent-ils pour la pêche illégale? Pourquoi l'activité prospère? Quelles sont leurs motivations? Que dit la réglementation? Reportage, interview et analyse dans le 13h. Piège numérique, le deepfake ou l'hypertrucage au cœur de l'actualité. Des textes entiers sont créés et attribués à des tiers. Des faux contenus vidéo sont en circulation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut échanger ou parler même avec des personnes décédées. Il s'agit d'une manipulation digitale falsifiée par l'intelligence artificielle dont les produits inondent Internet. On y perd son latin. Difficile de faire la différence entre le faux et le vrai. Comment reconnaître l'hypertrucage? Parole aux spécialistes dans cette édition. La saison des examens se poursuit depuis ce matin. Les élèves à travers le Cameroun affrontent les épreuves écrites du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, et du CEP, le certificat d'études primaires. Pas d'incident majeur à relever au cours de cette première journée. En sport, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions Indomptables donnent rendez-vous à leur public ce samedi au stade Omnisports de Yaoundé. Match de la troisième journée contre le Cabo Verde. Match crucial aussi pour Vincent Aboubakar et ses coéquipiers. Premier test pour le nouvel entraîneur sélectionneur national. Marc Brice et son groupe ont deux séances d'entraînement au programme ce mardi. Pêche illégale, l'activité prospère au Cameroun. Un nombre croissant de navires appartenant à des sociétés étrangères avec des antécédents de pêche illégale battent pavillon vert ou jaune. Les dégâts sont énormes, un peu plus de 20 milliards de francs CFA de pertes annuelles pour l'économie nationale. Plus de 100 000 tonnes de produits halieutiques importés. Marie-Monique Mbozo.
Combien sont-ils exactement? 14, 35 ou beaucoup plus encore? Les bateaux de pêche étrangers battant pavillon vert ou jaune se multiplient au large des côtes camerounaises. Ces pêcheurs illégaux en provenance des pays voisins et même de l'Asie ont un point commun, à savoir des antécédents de pêche illégale. Facile donc d'identifier leur type d'activité et le manque à gagner pour l'économie nationale est important. Un peu plus de 20 milliards de francs CFA annuellement et plus de 100 000 tonnes de produits halieutiques emportés. Alors même que le Cameroun dépense quelques 100 milliards de francs CFA pour des importations massives de poissons, la demande nationale étant supérieure à l'offre. Cette piraterie constitue une menace sur l'exploitation durable de la mer, sur la biodiversité marine et pour l'économie. C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée entre le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales et le ministère de la Défense pour la sécurisation des zones de pêche sur le territoire national afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il est question de se déployer sur les 360 km de côte maritime du pays. D'autres projets allant dans le même sens sont financés par l'Union européenne et la FAO. Question d'assurer la sécurité alimentaire, la durabilité des stocks halieutiques et la biodiversité marine.
L'extrême nord, grande zone de production des poissons, n'est pas à l'abri du phénomène de pêche illégale. Les responsables régionaux du ministère de l'Élevage font état de ce que près de 4000 pêcheurs évoluent dans la clandestinité, ce qui impacte la production dans les différents lacs dont dispose la région. On fait le point avec Adamo Moussa, CRTV Extrême Nord.
Dans l'extrême nord, où l'on dénombre plus de 5000 pêcheurs, seuls 400 disposent d'un permis. Preuve que la pêche illégale se porte bien dans cette région. Amadou Lahamdi, délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales.
La pêche est très souvent pratiquée avec des engins et des techniques qui sont interdites. On retrouve les filets aux mailles inférieures à 3 cm tels que les moustiquaires. La pratique du canot de pêche et les barrages des nasses et également la pêche à pâté.
Dans les lacs de Maga, Guéré, Kaikai, dans le département du Mayo Danaï, l'impact de cette activité illégale est bien visible.
Des cours d'eau autrefois poissonnés ne le sont plus. Le Logon était autrefois ce qu'on dit le fleuve le plus poissonneux du monde. Il ne l'est plus. Les lacs de Maga, la production baisse.
Pour aller au-delà de 21 000 tonnes de poissons produits l'année dernière, la délégation régionale du Minépia renforce la surveillance de ces lacs. Amadoula Hamdi, délégué régional.
Les services en charge de la surveillance des activités de pêche sont au nombre de 23, dont 18 dans le département du Logone-Chari.
L'application de repos biologiques.
Des campagnes pour amener les pêcheurs vers la légalité et promouvoir aussi l'aquaculture sont aussi régulièrement organisées. Marwa Adamou Moussa, CRTV.
Au fil des ans, la pêche illicite prend de l'ampleur à Kribi, dans le département de l'Océan. Une pratique des chalutiers qui foule au pied la réglementation de la pêche maritime qui interdit les captures de poissons au niveau des embouchures. Sur place, les acteurs de la pêche artisanale maritime éprouvent d'énormes difficultés dans les activités menées au quotidien. Les raisons et les conséquences de la pêche illicite, c'est dans ce reportage de Ghislaine Alleneux, CRTV Sud à Kribi.
À Kribi, la pêche artisanale suffoque du fait de la pêche illicite pratiqué par les chalutiers, Victor Ekouan et Patrick Dama, pêcheurs.
On nous avait dit qu'on doit se limiter à pêcher à 10. À plus de 10 là, c'est les chalutiers. Mais les chalutiers qui viennent maintenant nous trouver à deux brassées au bord, couper le filet, tu ne peux pas parler.
Pour avoir du poisson, tant de billes, très loin.
Sur place, le non-respect des espaces marins et surtout l'utilisation du matériel non réglementaire par ces pirates de mer ne sont pas sans conséquences sur l'écosystème marin le long de la côte atlantique Kribi-Campo. Docteur Serge Alain Sioué Siaké, délégué des départemental de l'élevage, des pêches et des industries animales de l'océan.
Déjà, il y a violation de la loi qui voudrait que cette zone côtière soit réservée aux artisans pêcheurs. Qui dit compétition dit rareté. Parce que les chalutiers, eux, ils ont des filets qui peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres. Et les mailles sont tellement petites qu'elles vont racler pratiquement tout, y compris les poissons immatures. Ces chalutiers, malheureusement, ne débarquent pas leur capture sur nos marchés.
Mais en attendant que la répression et les campagnes de sensibilisation menées par la marine marchande produisent des résultats probants, c'est la mer qui continue de se vider de ses ressources au fil du temps. Kribi, Ghislaine Alleneux, CRTV.
Gestion intégrée des paysages, l'Afrique centrale et ses partenaires techniques et financiers intègrent cette approche dans le secteur forêt-environnement. La 20e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui se tient à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a été l'occasion de remettre sur la table des discussions ce concept soutenu par les institutions de recherche. Voici les détails avec Lynne-Renée Batongué à Kinshasa.
Le concept de gestion intégrée des paysages a connu un développement remarquable dans l'agenda international du développement ces dernières années. Cette forme de gestion de l'espace tire avantage des limites des approches sectorielles largement prévalentes pendant des décennies dans les politiques de conservation de la biodiversité et de protection des forêts pour promouvoir une démarche prenant en compte l'ensemble des dynamiques qui structurent la gestion des ressources naturelles dans un espace donné. Bien qu'interprétées de différentes manières, il existe un large consensus sur le fait que les approches intégrées sont essentielles pour relever le triple défi de la croissance démographique, la prévention de la perte de biodiversité, ainsi que l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Les approches paysagères reconnaissent les interconnexions entre les hommes et la nature, dans des endroits où les utilisations productives des terres, telles que l'agriculture, l'élevage et l'exploitation minière, sont en concurrence avec les objectifs environnementaux et de biodiversité. Ces approches systémiques visent à améliorer les processus de gestion des terres pour atteindre simultanément des objectifs sociaux, économiques et environnementaux, tout en préservant les écosystèmes précieux et les services essentiels qu'ils fournissent. Dans le contexte de l'Afrique centrale, de plus en plus de partenaires techniques et financiers intègrent cette approche dans leur stratégie d'intervention dans le secteur forêt-environnement. En ligne de Kinshasa, Lynne-Renée Batongué, CRTV.
Le développement de l'économie forestière dans la réserve de biosphère du Dja passe entre autres par la valorisation des produits forestiers non ligneux. Le ministère des Forêts, de la Faune et ses partenaires, dont l'UNESCO, accompagnent les populations autochtones, Baka et Bantou, dans la collecte et la commercialisation de ces produits forestiers non ligneux. Il s'agit du jansang, du mbalaka, des mangues sauvages, des graines de moabi et des fèves de cacao. Eliane Matsingoum.
Le mbalaka, le tokoloko.
Ce sont quelques produits forestiers non ligneux collectés en forêt sans nécessité d'abattre des arbres, énoncé par Sa Majesté Jean-Pierre Sambé, chef du campement Baka du village Ayene, situé dans l'arrondissement de Somalomo. Alex Stéphane Yoba, assistant biomonitoring Africa Wala Bio Foundation Dja.
Trouver ensemble avec les communautés les alternatives, sources de revenus, c'est pourquoi on parle de chaîne de valeur, produits forestiers non ligneux, Mbalaka, Njansan, Moabi, quatre côtés pour ne citer que cela. Vendre le produit et avoir de l'argent pour financer l'école, la santé et autres.
Entre 2017 et 2022, cette valorisation a été estimée à plus de 6 millions de francs CFA, selon le rapport présenté le 31 mai dernier au Bureau de la conservation de l'antenne nord de la réserve du Dja. La collecte et la commercialisation des produits non ligneux par les peuples autochtones et bantous installés dans la réserve du Dja entrent dans le cadre de leur autonomisation.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 11 minutes à Yaoundé. De la technologie dans cette édition, savez-vous qu'il est possible aujourd'hui de faire parler, rire, d'échanger avec des personnes décédées à l'aide de faux contenus vidéo. Le procédé numérique s'appelle le deepfake ou l'hypertrucage. C'est une manipulation digitale falsifiée par l'intelligence artificielle dont les produits pullulent sur Internet. Et avec l'avancée de la technologie, il est parfois difficile de faire la différence entre les vidéos authentiques et les vidéos falsifiées. Notre reporter Gilles-Claude Mbongitundi a fait appel à un spécialiste. C'est dans ce reportage.
Encore une fois, tu me fais déplacer pour des conneries.
C'est la vraie fausse vidéo de Kylian Mbappé qui se fait enguirlander par son père. On y voit le capitaine de l'équipe de France se faire tirer l'oreille par son papounet comme un gamin. Le trucage vidéo ultra bien fait enregistre des millions de vues sur la toile. Et pour Haruna Fenjou, consultant en alphabétisation numérique, ces contenus ne sont pas anodins.
Il y a la désinformation, l'atteinte à la réputation. Les deepfakes peuvent être utilisés pour inciter à la violence et aux troubles sociaux, ce qui peut bien évidemment mettre en danger la sécurité des individus et des biens.
Pour dissiper le doute, la vérification et la confrontation de la source peuvent démêler le vrai du faux.
Si bien évidemment on ne connaît pas la source, il est préférable de ne pas partager. Il faut rechercher d'autres sources d'informations pour confirmer les informations contenues dans un audio ou bien dans une vidéo.
L'intelligence artificielle génère des images de plus en plus naturelles, alors les petits détails peuvent faire toute la différence.
Rechercher les incohérences, comme le mouvement des lèvres, qui ne correspondent pas généralement aux paroles ou des problèmes de synchronisation.
Les logiciels tels que Fake Catcher, InVid ou encore Spy on Web peuvent démasquer l'hypertrucage. Selon l'UNESCO, jusqu'à 90% des contenus en ligne pourraient être générés synthétiquement d'ici 2026.
La période des examens officiels se poursuit. 330 621 jeunes du primaire affrontent depuis ce matin les épreuves du certificat d'études primaires et 147 303 pour le First Living Certificate. Dans la région du centre, 78 328 candidats sont répartis dans 546 sous-centres. Notre reporter est descendu dans un sous-centre du CEP à Yaoundé. Ambiance et déroulement du CEP au sous-centre de l'école primaire de la retraite, c'est un reportage de Arlette Amadou.
Cette sonnerie marque la fin des premières épreuves. Il est 10h15. Les épreuves vont débuter à 8h dans le calme et la sérénité. Félicité Frida Epo, chef de sous-centre de l'école primaire de la retraite.
Le CEP se déroule dans de bonnes conditions, de très bonnes conditions, je dirais même, parce que depuis le matin, tout est calme, aucun incident jusqu'ici.
Le programme de la journée affiche pour la matinée la dictée et les questions, la production d'écrits, les mathématiques et en début d'après-midi, les connaissances générales. Quelques candidats sont optimistes.
On a très bien composé. On a fait français. On a très bien composé puisque la dictée n'était pas trop dure. La production d'écrits qui parlait des accidents et des incidents. Sandy. Oui, j'ai bien composé. La dictée n'était pas dure.
Les deux épreuves étaient bien.
J'ai trouvé les épreuves faciles. Production d'écrit était facile. Le français aussi.
Sur les 212 inscrits, 210 ont répondu présent. Ils ont entre 9 ans et 12 ans et viennent de 3 établissements scolaires de la ville. Le CEP s'achève ce mercredi par les sciences, l'anglais, l'éducation physique et les épreuves orales.
C'est dans le calme et la sérénité que plus de 60 000 candidats ont démarré ce mardi avec les épreuves écrites des examens du certificat d'études primaires CEP et du First School Living Certificate session 2024. Faisons le point avec Jean de Dieu Coignan, CRTV Ouest.
Pour ce premier jour des examens du certificat d'études primaires et First School Living Certificate, session de 2024, certains parents ont tenu à accompagner leurs enfants dans leur centre d'examen.
J'ai tenu à accompagner l'enfant ce matin parce que ce sont les tout petits. Il est bien vrai, ils ont affronté le concours récemment, mais il faut toujours les accompagner. Parce qu'on ne sait jamais, avec la fosse, ils peuvent s'égarer. Et c'est mieux de l'accompagner pour le rassurer.
Après avoir reçu les consignes des surveillants de salle, les candidats ont affronté la première épreuve dans le calme et la sérénité des 8 heures. Rebecca Mimchi, inspecteur d'éducation de base de Bafoussam Premier.
Les épreuves ont bien commencé. Nous avons constaté que les enfants étaient dans les salles de classe et tous les surveillants également. On a lancé avec la première épreuve qui est la dictée, suivie des questions. Alors nous osons croire qu'avec ce bon démarrage, le reste va se dérouler sans anicroche.
Dans la région de l'Ouest, ils sont plus de 60 000 candidats qui sont à la conquête du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate, session de 2024. Bafoussam, Jean de Dieu Coignan, CRTV.
Ils sont plus de 202 000 candidats, toutes séries confondues, sur l'étendue du territoire national à se soumettre depuis ce matin aux épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Au sous-centre du lycée de Minkan, dans l'arrondissement des Yaoundé 4, ce sont 455 candidats, dont 8 absents, qui ont affronté les premières épreuves de cet examen en toute sérénité. Notre reporter Viviane Foul s'est rendue dans ce sous-centre dès les premières heures de la matinée. Voici son reportage.
Lycée de Minkan, ce mardi, dès les premières heures de la matinée, le sous-centre grouille déjà de monde. Les candidats, certains accompagnés de leurs parents, sont alignés dès l'aube devant le portail. Dès 6h30, les choses sérieuses commencent avec l'arrivée du chef de sous-centre, du chef d'émission, des surveillants. Madame Mendoa, Brigitte, proviseur, chef de sous-centre.
Nous avons procédé à la fouille qui s'est faite. Nous avons pu retenir lors des fouilles des montres, les calculatrices intelligentes et très peu de portables. Tout s'est très bien passé.
À 8 heures, la première épreuve est lancée, celle de l'étude de texte, suivie de l'orthographe, de la dictée et de l'informatique. Suffisant à ce stade pour les candidats de se prononcer.
Je suis l'élève Zakia Toukachela de la 3e allemande ici au lycée de Minkan. Les premières épreuves étaient abordables. Actuellement, nous recherchons la mention.
Je suis l'élève Bukono Mona Marie Béatrice. Les premières épreuves étaient abordables. C'était pas si difficile que ça.
Le lycée de Minkan a entamé cette première journée du brevet d'études du premier cycle dans la sérénité. Sur les 455 inscrits, 8 n'ont pas pu prendre le train de départ. Les épreuves écrites se poursuivent jusqu'à ce vendredi.
Les épreuves du BEPC ont été lancées ce matin du 4 juin 2024 à Bafoussam. Les candidats ont fait face au sujet d'études de texte, de dictée, d'informatique et de CM selon le programme du jour. Dans les différents centres, les responsables sont ponctuels et les chargés de mission du ministère des enseignements secondaires veillent au respect des règles établies. Quelques cas de malaise ont été signalés ainsi que des absences sans grand incident réel sur le déroulement des épreuves. Voici le reportage d'Emmanuel Koloku à Bafoussam.
La concentration est de mise au centre du lycée bilingue de Bafoussam Diandam. Aux 550 candidats composent l'épreuve d'études et textes à notre arrivée. Le chef de centre, Tandi Kassimou, est au four et au moulin en accord avec les responsables de son secrétariat et les chargés des missions de son ministère de tutelle. Il s'assure que les candidats sont dans de bonnes conditions.
Les examens se déroulent bien. Pour le moment, on n'a pas de soucis. Nous avons reçu ce matin 550 parce qu'il y a 2 absents.
Un peu plus loin, au lycée bilingue de Tungan 2, sous-centre d'examen du BEPC, le professeur Samuel Guédia s'apprête à lancer l'épreuve de dictée. Il présente les enveloppes scellées aux candidats et aux surveillants.
Nous nous assurons que ce rituel est mené avant l'ouverture de ces enveloppes. Je puis vous assurer que jusqu'à présent, tout se déroule dans le calme et la sérénité.
Le centre du lycée Bilen Ngouache, qui attendait 701 candidats, a enregistré quelques absents et un malade. Le chef de centre, Hélène Kanke, continue de veiller au bon déroulement des épreuves.
Il n'y a que 3 absents. Les candidats sont en train de travailler. Les surveillants également sont debout. Nous avons eu un candidat qui s'est écroulé ce matin. Heureusement que nous avons une infirmerie fournie. L'infirmière a essayé de le remonter avec quelques vitamines, des feralgans et autres. Il est important qu'on puisse placer une perfusion.
Le premier jour d'examen écrit du BEPC permettent ainsi aux différents candidats de la ville de Bafoussam de restituer les connaissances acquises au cours de l'année, mais aussi de comprendre le sens des responsabilités qui les attend dans la vraie vie. Bafoussam, Emmanuel Kolokou, SIA TV.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 20 minutes à Yaoundé. Optimisme et embellie économique, voilà des mots à retenir pour qualifier le rapport annuel 2023 sur l'état de mise en œuvre des réformes économiques et financières dans la zone CEMAC. Ce rapport qui vient d'être publié fait état d'un niveau satisfaisant de réalisation des projets intégrateurs première phase et des engagements certains pour la phase 2. Sylvain Yangman.
62,2%, c'est le taux de réalisation des principaux projets pilotés par le programme des réformes économiques et financières, PREF-CEMAC, à la fin de l'année 2023. 8 des 11 projets intégrateurs ont démarré en 2022 pour la première phase. La deuxième phase, qui va de 2021 à 2025, devrait aider à accélérer les réformes structurelles et la diversification économique, de promouvoir l'intégration régionale et de renforcer l'efficacité de la politique monétaire et des systèmes financiers dans la sous-région. Et bien que confronté à la montée des tensions inflationnistes et au durcissement des conditions de financement sur les marchés financiers internationaux, les économies de la CEMAC se sont montrées résilientes depuis 2020 en enregistrant une évolution positive du taux de croissance du produit intérieur brut réel, estimé à 2,4% en 2023, 2,9% en 2022 et 1,6% en 2021, alors qu'il se situait à moins de 1,8% en 2020. Après l'embellie de 2022, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, prévoit un renforcement de la croissance de l'activité économique avec une progression de 3,5% en 2024 à 4,3% en 2025 avant de ralentir à 3,5% en 2026.
En religion, Hadj 2024, le 6e contingent des pèlerins vient de quitter Garoua, dans le nord, à destination de Médine, en Arabie Saoudite. Constitué de 267 passagers, cette vague regroupe les appelés d'Allah, des régions de l'extrême nord, de la Damawa et du nord. Ils sont tous déterminés à prier pour la paix au Cameroun. En ligne de Garoua, il y a Hacham Alim, SIA TV Nord.
L'émotion des pèlerins donne une nouvelle vitalité à l'aéroport international de Garoua qui vit depuis quelques jours au gré du trafic aérien intense. Ce contingent, constitué de 267 passagers qui s'apprêtent à rallier la ville de Médine, regroupe ceux des régions du nord, de l'extrême nord et de l'Adamawa. Aïssatou Adamou effectue pour la première fois le Hajj au lieu saint de l'islam.
Je suis très émue de cette grâce que Allah m'a accordée. Nous le prions de nous permettre d'accomplir un très bon Hajj à la Mecque.
Habité par la passion et la dévotion, tous les voyageurs se réjouissent du dispositif taillé sur mesure. Aboubakar Bala.
Toutes les procédures se déroulent normalement. Nous remercions l'organisation et surtout le chef de l'État.
Après les formalités d'usage, chacun passe à la caisse pour entrer en possession de l'argent représentant la subvention du président Paul Biya.
Vraiment, c'est extraordinaire, on ne s'attendait pas. Ça montre davantage son grand cœur pour aider les pèlerins camerounais.
Devant le représentant du gouverneur, Alim Garga, ils embarquent à bord du Boeing 787 avec un ferme engagement.
Nous garantissons que nous allons faire la prière pour nous-mêmes, pour notre famille, pour tout le Cameroun tout entier.
Garoua, IA Chamalim, SIA TV.
Ils répondent déjà à l'appel de la Mecque. Un contingent camerounais vient de quitter Médine pour la première ville sainte de l'islam où ils accompliront le pèlerinage. Les 267 fidèles devront au préalable se plier au rituel obligatoire de sacralisation avant de rallier la Mecque. Pour vivre l'ambiance de départ, retrouvons à Médine Mohamed Nana, l'un des envoyés spéciaux de la CRTV en Arabie Saoudite.
Après l'étape de Médine, consacrée essentiellement à la visite des lieux saints, certains pèlerins camerounais ont déjà le cœur et l'esprit à la Mecque pour la suite du voyage spirituel. Une expérience inédite pour Djamila Abdel.
Un peu stressée, anxieuse également, quelque chose que je ne connaissais pas. C'est vrai, c'est quelque chose qui est très recommandé, ça fait partie des piliers de l'islam. Mais ça reste un voyage comme tous les autres et pas inquiète, non.
Déjà revêtue de son ihram, cette tenue blanche composée de deux pièces non cousues, Abakar Sani, qui effectue également son premier voyage en Terre Sainte, trépigne d'enthousiasme. L'idée de voir la Kaaba et d'y prier le ravit.
Très ému d'arriver à la Mecque et c'est ma première fois de visiter ce lieu sacré et j'encourage tous les frères musulmans du monde entier de venir aussi dans ce lieu sacré.
Chronos en main, ils devront effectuer pas moins de 5 à 6 heures de route pour rallier la Mecque. Mais avant leur entrée dans la ville sainte, ces pèlerins effectueront une escale obligatoire au Miqat, un lieu de sacralisation. Avant le début du rituel du Hajj, les pèlerins, à leur arrivée à la Mecque, doivent accomplir la Umrah, encore appelée le petit pèlerinage, un acte d'adoration recommandé par le prophète de l'islam. Médine, Ousmaïl Atoukour, Mohamed Nana, CRTV.
En sport, les Lions indomptables poursuivent la préparation des deux prochaines rencontres qui sont prévues les 8 et 11 juin contre le Cabo Verde et l'Angola, avec au programme ce mardi deux séances d'entraînement pour Vincent Aboubakar et ses coéquipiers déterminés à tenir leur rang. Le groupe enregistre l'arrivée de Didier Lamkelze qui a disputé son dernier match en club. Samuel Billon.
Didier Lamkelze a rejoint le groupe. L'attaquant de 27 ans disputait dimanche un match crucial de barrage contre AS Saint-Étienne et finalement son club FC Metz est relégué en Ligue 2 française. Depuis ce matin, Didier Lamkelze et ses coéquipiers de l'équipe nationale enchaînent la manœuvre. Pesée matinale quotidienne, footing avant la deuxième séance d'entraînement à 10h à huis clos au stade de Ngouaïkélé. La mi-journée est consacrée au repos et aux soins. Marc Brice et son groupe se présentent à nouveau à 16h au stade de Ngouaïkélé. Les 15 premières minutes seront consacrées à la presse, séquences vidéo et interviews avant le huis clos pour la suite de la mise en place tactique. Privé de la CAN en Côte d'Ivoire pour blessure, Brian Beaumont est heureux de retrouver la sélection nationale. 25 matchs, 9 buts et 6 passes décisives en club cette saison pour l'attaquant de Brentford.
On a une très bonne ambiance ici. Les gars ont de bonnes mentalités ici. Je suis content d'être de retour en sélection après ma blessure. On a toujours des objectifs élevés. On a envie de gagner tous les matchs possibles pour rendre le peuple camerounais fier et ce qu'on va essayer de faire.
Cameroun contre Cap Vert, c'est ce samedi à 14h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé.
Après une trêve de 24 heures, la compétition a repris ce matin. Il s'agit du Tour cycliste international du Cameroun. C'est avec la quatrième étape Banganté-Foumbot-Bafoussam, longue de 79,8 km. Le départ a été donné à 11h à la place des fêtes de Banganté. Le Camerounais de la SNH Vélo Club Clovis Kamzon Abosolo est en jaune. Nous retrouvons Didier Marius Etundi, l'envoyé spécial de la CRTV, à la place des fêtes de Bafoussam. Bonjour Didier Marius.
Bonjour Marie-Françoise, bienvenue à Bafoussam. L'entente démarre. Est-ce que le maillot jaune restera sur les épaules du Camerounais au terme de cette quatrième étape? Étape gagnée par Saïri Yaoub, l'Algérien, était à 1 minute 03 secondes du maillot jaune. Les 49 compétiteurs ont pris le départ à 11h à la place sous le regard du maire Emery Kenyatt et le premier adjoint préfectoral Gogni Mirex. La course a été menée par l'entame par les Marocains algériens. Les compétiteurs ont
suggéré toutes nos excuses. Didier Marius, nous allons vous retrouver dans nos prochaines éditions. La ligne n'est pas très nette entre vous et nous ici en studio. À présent, voici le condensé des nouvelles du jour en anglais, Manka A. Ambi.
Good afternoon. Officials of the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industry say illegal fishing, which is gaining grounds in Cameroon, is punishable by the law. To this end, they have intensified campaigns against the act with the aim to encourage the protection, conservation and enhancement of fisheries resources in Cameroon. Over in the far north region, which produces some 20,000 tons of fish from its rivers annually, only 400 out of the about 5,000 fishermen have licenses to carry out the activity. About 148,000 candidates of the Anglophone sub-system of education today began sitting the first school leaving certificate examination across the national territory. Reports say the examination began at exactly 8 a.m. with mathematics papers 1 and 2 and English papers 1 and 2 with no major hitches. The first school leaving certificate is the gateway to secondary education after 6 years in the primary school. Still in education, over 200,000 candidates are also sitting the brevet d'études du premier cycle, the BPC. About 800 of them are sitting the exams at the government bilingual high school in Koldongo, with 30 candidates whose names were not found on the list but were allowed to sit the exams after some considerations. In religion, the flight carrying on board the Sikh delegation of pilgrims traveling to Mecca for the 2024 Hajj took off at midday today from the Garoua International Airport. The Inspector General of the North Governor's Office, Alim Gargar, also supervised the fifth delegation that left yesterday at about 9:30 p.m. He reminded the pilgrims to pray for peace to reign in Cameroon and the world. In sports, the fourth lap of the International Cycling Tour of Cameroon is on course with 51 cyclists. The kickoff of the race was given this morning at the Bangate Ceremonial Ground by the first deputy SDU Fondé Division, Mirans Nguigny, in the presence of the mayor of Bangate, Eric Nyat. And the Indomitable Lions of Cameroon continue their training sessions ahead of their World Cup qualifiers against Cabo Verde and Angola. Didier Lamkelze has just joined his teammates in the Lions Den. We'll develop the stories and more for you at 3 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, pêche illicite et non déclarée, le phénomène prend de l'ampleur. Les écosystèmes marins sont menacés. En cette journée internationale de la pêche illicite et non déclarée, la lutte contre cette forme de pêche était dans le dossier du Trésor. Le secteur en a fait l'état des lieux dans les régions du littoral, de l'extrême nord et du sud. La saison des examens se poursuit. Depuis ce matin, les élèves à travers le Cameroun affrontent des épreuves qui du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, et du CEP, le certificat d'études primaires. Pas d'incident majeur à relever au cours de cette première journée. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions Indomptables donnent rendez-vous à leur public ce samedi au stade Omnisports de Yaoundé. Match de la troisième journée contre le Cabo Verde. 13h32, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent après-midi.